Vous êtes sur RTL. 14h30, 15h30.
On est fait pour s'entendre.
Avec Flavie Flamand sur RTL.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous espère au mieux. Merci pour votre fidélité à notre rendez-vous de chaque jour dont nous fêterons la grande dernière vendredi en direct avant de vous inviter pour de nouvelles aventures. Ce sera à la rentrée prochaine. Si vous nous suivez sur Facebook, guettez notre appel à témoins car plus que jamais vendredi, eh bien cette émission, la dernière dont on est fait pour s'entendre depuis 10 ans, donc, sera la vôtre. Mais pour l'heure, en ce mardi jusqu'à 15h30, je vous le disais, on s'intéresse à l'hypersensibilité. Je suis douée d'une sensibilité absurde, ce qui rafle les autres me déchire, a écrit Gustave Flaubert. De plus en plus de personnes se déclarent hypersensibles face à la dureté de notre monde. Si parler de l'hypersensibilité et démocratiser les connaissances à son sujet sont de très bonnes choses, sommes-nous tous toutefois hypersensibles? Ne fait-on pas d'amalgame en fait entre les souffrances que tout un chacun peut éprouver et cette haute sensibilité dont les caractéristiques sont bien spécifiques et pas seulement négatives? On en parle avec Emmanuel dans un instant sur cette antenne, mais pour l'heure, bonjour Cécile Guéry.
Bonjour.
Bienvenue sur RTL, merci d'être avec nous. Vous êtes thérapeute gestalt et créatrice d'un blog, La Psy Buissonnière. C'est quoi l'hypersensibilité pour ceux qui en entendraient parler mais qui n'en connaissent pas la réelle définition?
Alors l'hypersensibilité, il y a à la fois une grande réceptivité, c'est-à-dire souvent par exemple les hypersensibles, ils témoignent d'une grande sensibilité par exemple au bruit ou à la lumière, voilà, certains sens comme ça qui sont plus exacerbés ont-ils l'impression que les autres, et d'ailleurs souvent c'est le cas, voilà. Et il y a aussi une grande, c'est pas toujours le cas, et souvent une grande émotivité, avec l'impression, comme vous disiez dans l'introduction, d'être écorché par le monde, que le monde vraiment, qu'il y a quelque chose qui est un peu sans filtre. Souvent aussi, j'entends des hypersensibles parler de, ils ont l'impression de marcher à cœur ouvert, c'est-à-dire que vraiment le monde les atteint et ils sont très émotifs en réaction à ce monde-là.
Ce qui fait que certains les appellent, on parle aussi parfois de sensiblerie, d'une façon négative.
Oui, alors ça c'est une manière de réprimer ou de se moquer un petit peu, effectivement. Alors voilà, c'est de la sensibilité, ça peut être très beau aussi d'être sensible.
Alors on va en parler avec vous, avec nos auditeurs, également avec Hélène Fresnel. Bonjour Hélène.
Bonjour Flavie.
Vous êtes journaliste à Psychologie Magazine, partenaire de cette émission, l'ultra sensibilité, un super pourvoir. Posez-vous la question. Téna nous écrit: je suis hypersensible, c'est un calvaire au quotidien. J'ai parfois envie d'avoir une pierre à la place du cœur pour pouvoir survivre dans ce monde dépourvu de sensibilité et d'empathie. Tout cela m'a conduite vers la solitude et vers l'amour des animaux. Croyez-moi, c'est loin d'être une bénédiction que d'être hypersensible. Alors voilà une description de l'hypersensibilité qui semble quand même parfaitement problématique.
Oui, absolument. Alors, est-ce que c'est cette jeune femme qui est hypersensible ou est-ce que c'est le monde qui l'environne qui est hyposensible, comme dit le psychiatre Christophe André? C'est la question. On peut aussi se poser la question de l'environnement dans lequel on évolue.
Oui, parce que le monde n'est pas que dépourvu de sensibilité et d'empathie.
Absolument.
Donc l'hypersensibilité, c'est vécu différemment par chacun qui en est touché.
Oui.
Enfin, les symptômes, même s'il y a effectivement des symptômes entre guillemets classiques, on peut aussi considérer qu'il est autant d'hypersensibilité qu'il est d'hypersensible.
Absolument. Déjà, le terme d'hypersensible, au départ, en France, en tout cas, c'était associé à quelque chose de médical. Donc, on parlait, c'était associé à la réactivité, notamment toutes les questions dermatologiques. Aux États-Unis, la dame qui a découvert le concept d'hypersensibilité parle plutôt d'autres sensibilités. Et c'est une dame qui s'appelle Helen Aron et elle-même se définit comme hautement sensible. Et elle s'est intéressée en fait à cette sensibilité parce qu'elle-même l'était et aussi parce qu'elle avait repéré ça dans des textes de Jung, donc de Carl Gustav Jung, le psychanalyste, qui parlait de personnalité hautement sensible. Voilà, donc en fait, les recherches ont évolué et elle a découvert, Helen Aron, que cette haute sensibilité est inné chez certains. Ça concerne à peu près 15 à 30% de la population, chez les humains, mais aussi chez les animaux. Voilà, c'est une particularité.
Est-ce
pas
que
toujours
ça
facile à vivre.
Autant les hommes que les femmes?
Alors, je ne sais pas trop, mais je crois que oui. Et en fait, la difficulté, c'est que les hommes, eux, dans la culture, on va dire, occidentale, encore traditionnelle, ça se cache plus. Voilà, c'est plus difficile à assumer pour les hommes, encore aujourd'hui, que pour les femmes.
Alors, il en est un qui n'a aucun problème pour en parler. C'est Emmanuel. On va le retrouver dans un instant en direct sur l'antenne d'RTL. On se retrouve tout de suite si vous souhaitez nous laisser des messages. Eh bien, 3210, les réseaux sociaux. Emmanuel, merci pour votre patience et à tout de suite.
RTL.
On est fait pour s'entendre.
Flavie Flamand sur RTL.
Jusqu'à 15h30.
Sachez qu'à l'occasion de la mise en vente demain à 10h de l'ultime concert d'Elton John en France en juin 2022, vous pouvez remporter vos places avant tout le monde sur RTL, bien sûr. Vous envoyez Elton, E-L-T-O-N, au 74 900, 75 centimes le SMS. Vous avez le droit à 4 SMS maximum. Tirage au sort en fin d'émission, en fin d'On est fait pour s'entendre. D'ailleurs, la fin d'On est fait pour s'entendre, c'est aujourd'hui à 15h30 en direct. Et puis, ce sera vendredi aussi. Alors, soyez remerciés pour votre fidélité. On parle de l'hypersensibilité aujourd'hui avec nos invités que sont Hélène Fresnel, Cécile Guéret. Certains la portent comme un fardeau, à l'instar d'Yveline sur Facebook. Marine, elle, à ses yeux, l'hypersensibilité est une faiblesse. On va demander à Emmanuel ce qu'il en pense. Emmanuel, bonjour.
Bonjour.
Emmanuel est un monsieur. Et on disait que les hommes se cachaient plus, justement. Alors, contrairement à... Enfin, Maurice Barthélémy, par exemple, a écrit un livre dernièrement sur l'hypersensibilité. Donc, voilà, il en est qui vont à contre-courant de ce que l'on pourrait penser. Et vous, donc, aujourd'hui, vous pouvez dire, je m'appelle Emmanuel, j'ai 54 ans, je suis musicien, auteur, podcasteur, journaliste, et je suis hypersensible.
Oui, j'ai pas de souci avec ça en fait. Pour moi, c'est pas un fardeau en fait. Mm-hmm. C'est plus un fardeau, ça a pu l'être. Ah. Après, ça va dépendre des situations. Mais à partir du moment où on arrive à mettre un mot sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on expérimente, c'est moins de l'inconnu et on peut en faire quelque chose. Moi, comme vous l'avez dit, enfin, je fais de la musique, j'écris, je crée.
Vous avez des sensibilités déjà artistiques.
Ben, laquelle sert l'autre, ça, je sais pas.
C'est-à-dire que vous, vos modes d'expression sont un moyen, à un moment donné, peut-être de trouver une réponse à votre hypersensibilité et lui permettre aussi de.
Ouais. J'ai la chance de pouvoir m'en servir, en fait.
Ouais, je comprends.
Et j'entends que certaines personnes, eux, ne peuvent pas forcément en faire leur métier ou en faire leur passion. Oui. Après, là, ça, c'est pour la partie joyeuse. La partie plus moins joyeuse, c'est quand j'étais enfant, mm-hmm. par exemple. La peur, chez moi, était un sentiment très fort. Je pense qu'il y a une anxiété de base, mais qui, dans certaines situations, étaient complètement exacerbées. J'ai un exemple quand j'étais, je sais pas, il y a une quinzaine d'années, j'ai failli me noyer dans l'Atlantique, j'étais emporté par le courant. Je savais très bien ce qu'il fallait faire, je suis plutôt bon nageur, et malgré tout, en fait, ça m'a paralysé. J'étais un bloc de pierre, donc c'est quelqu'un qui était à côté de moi qui a pu me sauver. Mais je pense que là, le ressentir trop fort cette peur, ça s'est transformé en panique et ça m'a
pétrifié.
Ça a failli me tuer. Mmh. Après, pareil, une agression quand j'étais ado, je me suis retrouvé dans le même cas de figure. Le trac a tendance à me paralyser. Quand je dois parler en public, c'est effroyable. Mmh. Donc bon, voilà, ça c'est le côté pas très
D'accord.
drôle.
Alors ça, c'est le côté un peu pétrifiant, handicapant, je dirais, de ce que vous considérez. Alors vous nous parlez aussi d'état de sidération. Hein. Oula, vous avez dû appuyer sur une touche de téléphone. on parle aussi d'un état de sidération face à certains chocs qui n'ont peut-être pas toujours de lien avec l'hypersensibilité. Mais c'est quoi être hypersensible? Est-ce que c'est vivre trop, trop fort, trop puissamment nos émotions, Emmanuel?
Certaines choses. La musique, chez moi, par exemple, ça provoque des choses, pas toutes les musiques, hein, mais ça provoque de très grandes émotions.
Ouais.
Extérieurement, alors on verra, je vais peut-être pleurer, je vais avoir la chair de poule, mais intérieurement, c'est très très intense, hein, ça donne envie de fusionner, ça me tire vers le haut, en fait, à chaque fois, j'ai cette impression d'être inspiré vers le haut.
Mmh.
Et c'est plus de la réflexion, c'est de la sensation pure, en fait.
D'accord, ce sont vos émotions qui parlent.
C'est de l'énergie, en fait, ouais, c'est une sensation énergétique très très forte.
Vous parlez du son, par exemple, pardonnez-moi, de la musique. Oui. Est-ce qu'il y a des sons qui vous paraissent insupportables? Est-ce que vous avez l'impression parfois d'avoir des amplificateurs à la place des oreilles? Et
oui,
là, pour
le coup,
de ne pas supporter les sons?
La lumière, pas forcément, ni les odeurs, ni forcément le goût, même si je sens que j'ai une acuité peut-être plus prononcée dans certaines situations. Mais le son, vraiment, pour moi, c'est pas handicapant comme la peur, par exemple, mais les bruits dans le TGV, par exemple, les sons du TGV, c'est très étouffé. Et on entend tout de façon, les gens qui pianotent sur leur clavier, le bruit des écouteurs, les gens qui mangent des chips, les bruits de mastication, c'est insupportable. Pour moi, c'est insupportable.
Mais en fait, ce que vous nous racontez, c'est une relation au monde. C'est une façon de percevoir le monde.
Oui, qui est très intense, en fait, qui est très intense. Je sais pas où il y a de l'acuité. Après, c'est mon attention qui va là-dessus. Moi, je lis beaucoup l'hypersensibilité aussi à la douance. En fait, j'ai découvert les deux en même temps et je sais pas dans quel sens ça marche. Je sais pas si c'est l'hypersensibilité qui entraîne la douance ou vice versa. Mais globalement, j'ai l'impression de percevoir pas mal de choses en même temps. Mmh. Enfin, moi, j'ai tendance dans le podcast que j'anime, j'entends des gens qui se posent la question tout le temps, et je ne sais pas si c'est une réponse véritablement scientifique là-dessus. Mmh. Savoir qu'est-ce qui entraîne l'autre. Quand on perçoit trop de choses en même temps, du son, de la lumière, comment le cerveau analyse ça et comment il l'envoie dans les circuits nerveux et comment on doit le restituer aussi, il y a ça aussi.
Ouais.
Quand je sens que je pleure et que je sais pas, je suis en situation de, il faut pas montrer qu'on pleure, comment je dois réagir en fait. Et là, le cerveau, il commence à.
Est-ce que vous avez été moqué pour votre hypersensibilité ?
Là, comme ça, tout de suite, maintenant, non. Non, ça, c'est parce qu'encore une fois, j'ai pu travailler là-dessus, puis ça me blessera pas. Donc oui, je vais vous dire que oui, sans doute, mais ça m'a pas marqué parce que je m'arrêterai pas à ce genre de détails. Et puis ma sensibilité, je l'expose. Enfin, je la mets en musique, je la mets en podcast.
Oui, c'est ça. En fait, vous lui permettez de s'extraire de vous, de s'exprimer d'une certaine façon. Alors, on va se retrouver dans un instant parce qu'il y a quelque chose aussi qui m'intéresse, c'est que vous êtes persuadé qu'on est tous hypersensibles lorsque l'on est enfant et qu'on perd finalement notre hypersensibilité. En tout cas, certains la perdent en chemin. On va se retrouver dans un instant, Emmanuel. Nous sommes en direct sur RTL. À tout de suite.
Flavie Flamand sur RTL. 14h30, 15h30.
On est fait pour s'entendre.
Avec Flavie Flamand sur RTL.
Il y a des jours comme ça. Voilà. Il y a des jours comme ça. Et puis on sent aussi, je sais pas, il y a les émotions comme ça. Quelques jours de la dernière, on lâche un petit peu. Merci d'être avec nous. On est ensemble jusqu'à 15h30 en direct. Emmanuel, vous êtes en ligne avec nous. Vous êtes un homme et vous êtes hypersensible. Votre podcast, d'ailleurs, s'intitule Le jour où j'ai compris que j'étais hypersensible ou pas. Vous êtes papa de deux enfants de 22 ans et de 10 ans. Dites-moi, est-ce que vous avez perçu chez eux une hypersensibilité qu'ils auraient pu perdre en cours de route ?
Alors, complètement perdre, non. Ouais. Ils le sont toujours. Mais comme on en a discuté ensemble, c'est plus facile avec le plus petit aujourd'hui, parce que le grand, quand lui était petit, j'avais pas notion de tout ça. Et bon, mais sur celui qui a 10 ans, oui, je vois là où il est très sensible, là où il ressent les choses très fort. Et franchement, si je peux partager ça avec vos auditeurs, c'est super important de comprendre sa propre sensibilité et d'en parler avec ses enfants, quoi, et de pas la réprimer. Je sais pas, vous avez des spécialistes qui vous diront ça sans doute mieux que moi, mais on apprend trop. Je trouve que la société, l'école, les parents nous dit qu'il ne faut pas être trop sensible. Or, ça aide, ça rend fort.
Alors, parce que vous l'avez apprivoisé, comme l'écrit Delphine. Hein, elle dit, en fait, il faut l'accepter et l'apprivoiser pour qu'elle devienne une force.
Oui.
Mais il faut s'accrocher. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, effectivement, je suis d'accord. d'accord avec vous. J'ai l'impression que vous vous appuyez sur des touches de votre téléphone et que vous, vous me commandez à distance. vous me rappelez à l'ordre. mais c'est vrai que pour les enfants d'aujourd'hui, on leur demande peut-être. En fait, on a peut-être peur à un moment donné que leur hypersensibilité les rende vulnérables face à la violence du monde, parce qu'on est dans un monde qui marche un peu sur la tête. On va pas se mentir.
Ouais, il y a peut-être un peu ça. Après, moi, je pense que c'est tout simplement, à partir du moment où on commence à dire « rigole pas trop fort »,« ne pleure pas ».
Ah non, alors ça, je suis d'accord.
C'est ce genre de choses-là. En fait, on apprend à réprimer petit à petit toutes ces émotions et au final, on arrive avec des adultes qui sont complètement inhibés. Et je pense d'ailleurs les réactions très vives qu'on peut voir aujourd'hui chez des gens qui se disent tout d'un coup hypersensibles, c'est ils redécouvrent quelque chose, peut-être c'est pour ça que c'est peut-être aussi fort, qu'ils redécouvrent ce qu'ils étaient enfants. Un bébé, enfin je ne sais pas, si on prend un bébé, je ne me souviens plus quand j'étais bébé, mais j'imagine qu'un bébé reçoit toute la vie, la lumière, les sons, le toucher, avec une force hallucinante.
Avec une forme de naïveté, comme si c'était un peu à chaque fois la première fois, quoi. En tout cas, on ressent. Oui, c'est ça. Mais vous avez raison, en fait, en quoi l'hypersensibilité serait-elle un privilège de la jeunesse? Est-ce qu'effectivement, la société nous rend plus conforme dans une certaine dureté, oui. Cécile Guéret, qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, alors, disons qu'en tout cas, il y a une question de maturation du cerveau aussi dans cette histoire. Parce que les enfants, effectivement, sont hypersensibles et hyper émotifs de fait, parce que il faut savoir que le cerveau devient, finit sa maturation, on pourrait dire, c'est pas très scientifique comme terme, mais on comprend, vers la vingtaine. C'est-à-dire qu'avant, le cerveau continue à être en développement. Et notamment le cerveau des enfants, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit que 7 ans, c'est l'âge de raison, c'est le moment où l'enfant peut commencer à prendre du recul sur la situation, à mettre des choses en perspective, à pas prendre, avoir tout à coup des émotions comme des colères énormes, des joies immenses, des tristesses terribles. Mais ça, c'est juste une question du cerveau qui est, du cortex préfrontal de l'enfant qui n'est pas encore arrivé à maturation.
Et puis les expériences aussi, je dirais aussi, qu'est-ce que vous en pensez, Hélène Fresnel? Nos expériences nous donnent à un moment donné la force peut-être aussi d'affronter différemment certaines situations.
Oui, alors évidemment, il y a effectivement cette question quand même du cerveau et des aires cérébrales plus ou moins stimulées et des chemins neuronaux qui vont se constituer au fil du temps et des expériences. C'est-à-dire qu'il y a des connexions qui vont se faire, des chemins qui vont se faire. Et ça va jusqu'à 25 ans. C'est quelque chose de...
Après,
il y a une plasticité cérébrale. Après, on décline.
Inexorablement.
Mais il y a une plasticité cérébrale.
Ouais, donc, je comprends.
Voilà, il y a une capacité à... Et ça va jusque très tard, la plasticité cérébrale.
Donc, est-ce que, en même temps, est-ce que justement, parce que ce que nous explique Emmanuel, selon lui, c'est que tous les enfants sont hypersensibles et on le perdrait en cours de route. Qu'est-ce qui fait que certains restent hypersensibles et d'autres pas?
Alors, je suis assez d'accord avec Emmanuel quand il parle de la manière dont on contraint les enfants pour qu'ils rentrent dans les cases, qu'ils fonctionnent, aller vite le matin, se tenir bien sage à l'école, enfin voilà, toutes les contraintes qu'il y a dans la vie comme ça en société pour fonctionner. Mais le problème, c'est qu'à force de fonctionner, on devient des êtres fonctionnels qui fonctionnent bien, mais qui du coup ont moins accès à nos sensations, nos émotions, nos éprouvés dans la relation avec l'autre. Et donc c'est vrai qu'on est dans une société qui cadre beaucoup ça, avec en plus de l'autre côté, l'idée que trop d'émotivité, ce serait une faiblesse, que dans la vie, il faut être productif, il faut aller de l'avant, il faut tout le temps rebondir de nos échecs comme si c'était très mal d'être malheureux, par exemple après une rupture amoureuse, ou un deuil, ou un échec. Alors qu'en fait, évidemment, c'est aussi toute notre grandeur, toute notre humanité, d'être en contact avec des émotions qui ne sont pas forcément celles
les plus agréables
par la société. Voilà. Donc c'est sûr qu'il y a quand même une part culturelle qui nous coupe, et c'est vrai beaucoup chez les petits garçons, qui nous coupe beaucoup de la sensibilité. Et tout le travail, en tout cas moi, ce que je trouve vraiment très intéressant, notamment par rapport à l'hypersensibilité, c'est justement le travail d'avoir à nouveau accès à ces sensations, avec l'idée qu'il y a toujours quelque chose de nouveau. Quand on a vraiment accès à ces sensations, quand on les laisse venir sans leur coller une étiquette, sans dire j'ai le ventre qui serre parce que je suis angoissée, mais se laisser découvrir l'émotion singulière du moment, ça c'est un travail qui est vraiment très riche quand on est hypersensible. Parce que souvent, l'hypersensibilité, c'est aussi, à force de contenir, de contenir, de contenir, et ben, de temps en temps, soit on est trop écorché par le monde, soit on peut plus contenir, et tout à coup, ça déborde et on sait plus comment faire. Donc, se réapproprier ses sensations et ses émotions petit à petit, ça aide à apaiser l'hypersensibilité sur le long terme.
Et puis, peut-être aussi écouter votre podcast, Emmanuel, qui s'intitule « Le jour où j'ai compris que j'étais hypersensible ou pas ». Je vous remercie d'avoir été avec nous.
Eh ben, merci à vous.
Voilà, j'accueille tout de suite Hortense Crépin pour les informations. Emmanuel, je vous salue et à bientôt peut-être sur l'antenne d'RTL. Ciao.
Merci, bonne journée.
Flavie Flamand sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL jusqu'à 15h30.
En compagnie d'Hélène Fresnel et de Cécile Guéret, nous nous intéressons à notre hypersensibilité. Enfin, je dis notre hypersensibilité. Tout le monde n'est pas hypersensible. Je la porte comme un fardeau, nous écrit Yveline. Je suis quelqu'un d'hypersensible et c'est à mes yeux une grosse faiblesse qui peut bousiller bien des relations. Qui dit être hypersensible dit tout prendre à cœur et pour la majorité des gens, ça passe pour de la susceptibilité. Or, c'est juste qu'on est touché en plein cœur par ce qu'on nous dit. C'est pas toujours facile de vivre avec un hypersensible ou en tout cas de fréquenter un hypersensible, Cécile Guéret.
Oui, effectivement, c'est pas toujours facile parce que c'est vrai que ce que j'entends beaucoup, par exemple, des hypersensibles, c'est l'impression que, en fait, il y a la question de la surstimulation, c'est-à-dire que c'est vite trop. Par exemple, le travail en open space, c'est très vite insupportable. Oui. Les transports en commun, c'est vite trop. Le bruit, c'est vite trop. Enfin, il y a beaucoup de choses où c'est vite trop. Et donc, ce que racontent souvent les personnes hypersensibles, c'est que quand c'est trop, il y a quelque chose qui se
trop
ferme,
non
un peu comme
pardon.
Une huître.
Qui... Elle est nulle, celle-là. Excusez-moi. Je la refais ou pas? Non, c'est bon, ça suffit. Excusez-moi. Donc, quand c'est trop, c'est...
Ouais. Donc c'est en effet trop pico.
Tout à voilà. fait. Vieux souvenir.
Et donc c'est trop. Ouais. Et donc ce qu'elle raconte, c'est qu'elle se referme sur elle et qu'elle peut vite avoir l'impression d'être irritable ou de faire la tête ou d'avoir l'air triste. En tout cas, ça peut être pris comme ça par l'entourage. Or, c'est pas forcément qu'elles font la tête, c'est qu'elles ont besoin en fait de vraiment de pouvoir s'isoler, mais qu'elles osent pas forcément le dire ou qu'elles s'en rendent pas forcément compte ou qu'elles n'ont pas forcément essayé cette technique là pour se réguler. Mais en fait, c'est le besoin d'être tranquille, d'être au calme, d'être à l'écart pour pouvoir ensuite revenir dans le contact avec l'autre.
Donc ça veut dire qu'il faut s'adapter aux hypersensibles. Est-ce que les hypersensibles doivent s'adapter aussi au monde qui les entoure, Hélène Fresnel?
On leur demande en permanence de s'adapter au monde les hypersensibles, puisque la société a quand même beaucoup de mal avec l'expression des émotions, avec tout ce qui est colère, tout ce qui peut être aujourd'hui, il faut quand même rester calme comme un petit bambou. Hein, donc c'est compliqué quand on a des émotions fortes de pouvoir les exprimer et d'oser les exprimer. Par ailleurs, en fait, l'hypersensibilité, Hélène Aron explique quand même, c'est majoritairement des personnalités plutôt introverties, en fait. Donc, c'est ce qu'expliquait Cécile. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, pour un peu préserver leur intériorité, ont besoin de s'isoler et de, peut-être, de former une petite bulle qui les protège de leur hyper réactivité. Ouais. Aux stimuli.
Mais au-delà de ça, par exemple, dans le rapport humain, quand on a effectivement Marine qui dit « bon ben bah voilà, on pense que je suis susceptible, on pense que ceci, on pense que cela », dans les rapports humains, quel est l'impact de l'hypersensibilité?
Bah effectivement,
est-ce
on peut
que ça
avoir
complique
l'air
les choses
d'être colérique, ouais. Hyper susceptible, irritable, voilà,
de pleurer facilement.
Donc c'est pas forcément évident, mais une explication de texte s'impose. On peut expliquer
ça.
On peut verbaliser. Mais pour pouvoir verbaliser, c'est aussi ce que disait Cécile. Il faut pouvoir être capable d'identifier les sensations. Parce que parfois, en fait, on éprouve des choses et on ne sait pas vraiment ce qu'on éprouve. Et ça demande une capacité à s'analyser et pas forcément à plaquer sur soi des émotions dont on entend parler. Donc, c'est pas évident, en fait.
Cécile Guéret ?
Oui, ce qu'il y a aussi, souvent, c'est que les personnes hypersensibles ont l'impression d'être un peu en décalage. Voire même, il peut y avoir un sentiment de honte ou une peur du rejet. Parce que bah, souvent, dans leur histoire, elles ont été trop émotives ou trop sensibles. Et elles ont eu l'impression que ça ne pouvait pas être accepté par l'environnement. Et du coup, il y a un petit peu, en tout cas certaines témoignent un peu d'une blessure d'abandon un peu à vif, qui fait que très vite, elles peuvent se sentir pas à la bonne place, ou pas comme les autres, ou illégitimes, ou pas comme il faut. Et que, en fait, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. C'est que du coup, elles prennent beaucoup sur elles pour s'adapter, mais que c'est de plus en plus difficile et que donc, c'est difficile pour elle à vivre.
On a un message de Ma sur Facebook. Je ne suis pas hypersensible, mais ma fille pré-ado l'est depuis quasi toujours. Ce n'est pas toujours simple pour elle à gérer. Les profs sont habitués et savent gérer, mais les camarades, les professeurs, ce n'est pas toujours évident. Cela fait pourtant partie de sa personnalité. On va se retrouver dans un instant car Camille a 30 ans. Elle pense que nous sommes nombreux à être hypersensibles, mais que beaucoup s'ignorent ou se cachent pour se protégé. A tout de suite sur RTL.
RTL. On est fait pour s'entendre. Vous êtes bien sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL.
Jusqu'à 15h30.
Merci d'être avec nous. On accueille tout de suite Camille sur cette antenne. Bonjour Camille.
Bonjour.
Bienvenue sur RTL Camille. Merci d'être là. Vous avez 30 ans. Vous travaillez dans le monde du livre. Et vous pensez effectivement que... Alors vous êtes hypersensible. D'ailleurs, comment est-ce que vous l'avez appris?
Alors, je n'ai pas tellement fait le test, mais j'ai suffisamment d'amis autour de moi et de personnes qui sont aussi hypersensibles pour aligner les points communs qu'on a ensemble et déterminer que je le suis aussi.
C'est intéressant, je me tourne, pardonnez-moi, tout de suite vers Cécile Guéry. Il y a un test en fait d'hypersensibilité auquel on peut se soumettre.
Oui, il y a un test qui est d'ailleurs en référence dans le dernier Psychologie, Hélène Fresnel, je ne sais pas si tu...
Oui, il y a un test qui a été établi par Hélène Aron,
voilà.
Qui permet de mesurer sa sensibilité.
D'accord.
Voilà, son niveau de sensibilité, de haute sensibilité, en fait, de voir si on a une sensibilité élevée.
D'accord. Elle se traduit comment, votre hypersensibilité, Camille ?
Eh bien, tout ce que vous avez dit, en fait, je me retrouve complètement là-dedans. D'ailleurs, je vous remercie parce que c'est du bien, en fait, d'entendre ça.
Ouais.
Donc, moi, ça fait vraiment la gestion des émotions, le besoin de me retrouver seule pour arriver à gérer tous les stimuli que je peux avoir, en fait, dans ma vie quotidienne et qui viennent générer chez moi des émotions que j'ai parfois beaucoup de mal même à identifier et à comprendre.
Mmh.
Et c'est vrai que, voilà, ça fait quelqu'un de moi, ça fait de moi plutôt quelqu'un qui est assez angoissée. Je peux aussi être très irritable, très susceptible, même si j'essaie de toujours essayer de comprendre l'autre. Qu'est-ce qu'il a voulu dire, en fait, en transmettant le message. Et ça, c'est hyper important pour arriver aussi soi-même à déconstruire et à apaiser ses émotions, à se mettre à la place de l'autre. Et c'est vrai que moi, je suis quelqu'un de très empathique. Donc, parfois, c'est vraiment très constructif dans les relations. Et parfois, c'est aussi dur à gérer parce que quelqu'un qui va mal ou une situation qui est violente, je vais la ressentir très fortement aussi.
Et puis, vous êtes, j'imagine, le genre d'ami à qui l'on a envie de se confier?
Clairement, je suis beaucoup dans l'écoute. Et puis, il y a des épanchements moi-même et j'aime ça, j'aime ce type de relation, clairement.
Camille, vous avez vécu dans votre vie certaines déconvenues. Est-ce qu'effectivement vos déceptions sont immenses, comme vos bonheurs peuvent être grandioses?
Alors, j'ai plus eu l'impression d'avoir eu des grandes déceptions, ou du moins des événements qui un peu ont entaché ma confiance.
Ouais.
Mais je sens en fait que depuis honnêtement 2-3 ans, je sens que je suis sur une belle progression. Et que,
On dirait Didier Deschamps. On a noté une belle progression.
J'ai aussi regardé le match hier.
Vous demander comment vous allez. Hein.
Exactement. Grosse déception en parlant de ces déceptions.
Ah bah tu m'étonnes. C'était violent, hein. C'était très violent.
Quand même. Mmh. Ascenseur émotionnel. Mais c'est vrai que... Oui, j'ai perdu le fil d'ailleurs de ce que je disais.
Je sais pas, débrouillez-vous. Non, vous étiez parti. Non, mais si je vous demandais si vous viviez d'immenses bonheurs si votre vie c'est un petit peu les montagnes russes, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire on peut parfois vivre plein de saisons dans une journée, quoi.
Oui, tout à fait. Et je me rends compte de la propension à l'émerveillement aussi qui existe chez moi et que j'embrasse davantage.
Je comprends.
J'avais tendance à pas la laisser s'éclore, à pas lui donner de place. Et maintenant, en fait, je me rends compte à quel point c'est juste beau, en fait, de se sentir bien et de le dire, en fait, ou même sans le dire, de le garder dans son intimité comme un moment que je peux reconvoquer quand je vais moins bien.
Ouais, je comprends très bien.
Et ça, c'est ouais, beaucoup plus.
C'est-à-dire qu'en fait, en vous écoutant, en allant à la rencontre de vous-même, en apprivoisant cette hypersensibilité, mais sans chercher pour autant, si je comprends bien, à tout définir, à mettre une étiquette sur chaque sensation, sur chaque émotion, parce que vous avez compris que de toute façon, vous fonctionniez comme ça, donc voilà. Vous avez transformé ce qui peut apparaître comme une faiblesse pour certains, vous l'avez transformé en force finalement.
Ben je suis sur la bonne voie et c'est vrai que ça, je vois vraiment la différence. Je vous avoue qu'il y a encore des moments compliqués, mais quand même, lorsque je prends du recul, grâce à différentes choses, hein, ça s'explique par des activités pour moi qui sont des activités artistiques, on arrive vraiment à trouver une source de joie, mais c'est vraiment du cas par cas après.
C'est intéressant, ça, Hélène Fresnel. On a le sentiment que l'expression artistique revient dans beaucoup, beaucoup de témoignages et c'est effectivement une clé, hein, une clé pour mieux vivre finalement ces émotions à fleur de peau.
Oui, les hypersensibles, il y a beaucoup d'hypersensibles chez les artistes d'ailleurs. Le premier à avoir employé le terme d'ultrasensibilité, c'était Baudelaire, pour parler de la peinture de Delacroix. Et puis, moi, j'aime beaucoup ce que disait Camille, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on identifie quelque chose, on peut. Je cite cette phrase de l'écrivain David Grossman qui parlait de l'importance de pouvoir donner un nom aux choses qu'on éprouve et il dit que c'est une manière d'être plus, de toucher la vie avec plus d'instruments.
C'est ça.
Quand on a un mot pour une chose, on entre en relation avec elle. Et là, j'ai vraiment l'impression, il parlait d'un mot qui est apparu que dans les années 60 en Israël, qui était le mot de tiskoul, qui en hébreu veut dire frustration. Et il raconte dans cet entretien que à un moment en Israël, tout le monde avait la tiskoul et tout le monde était frustré. Et je trouve que cette manière de définir, de dire que tout à coup un mot vient vous ouvre des portes.
Ah, c'est vrai.
Je trouve ça assez magnifique et c'est peut-être aussi pour ça qu'on a tant d'hypersensibles aujourd'hui parce que ce mot tout à coup a surgi très récemment et donc les individus qui sont s'en emparent et à juste titre.
On se retrouve dans un instant, Camille, vous restez avec nous hein, parce qu'on n'en a pas terminé avec vous. Tout de suite.
Flavie Flamand sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL
jusqu'à 15h30.
En attendant Elton John, il y a Sabine qui nous écoute et qui nous écrit: j'ai 52 ans, j'ai découvert que ce qui me pourrissait la vie depuis tant d'années était justement mon hypersensibilité. Il n'est jamais trop tard, Sabine. Avez-vous des méthodes pour que je puisse mieux vivre avec? Qu'est-ce que vous en pensez, Camille? Qu'est-ce que vous pourriez dire à Sabine?
Alors Sabine, je ne sais pas si ce qui marche pour moi fonctionnera pour vous, mais moi je trouve que la méditation ça aide quand même à se recentrer sur son corps, sur sa respiration, à s'ancrer et à être moins dans le mental. Parce que moi j'ai quand même l'impression que c'est le mental aussi qui est envahissant et donc les émotions viennent en fait de ce mental envahissant en partie. Et le fait juste d'essayer de se détacher de ça ou de limiter l'impact de la pensée sur ses émotions. Après, faire des activités qu'on aime, se poser la question de qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui fait que moi, je sens que je suis un être humain capable de vivre des choses fortes et juste pour moi. Donc ça, c'est hyper important de se poser et de mettre ses enfants, son mari, sa vie professionnelle légèrement à part et de penser à soi.
Dites donc, c'est vous êtes coach aussi ou Camille? Mais c'est intéressant parce que on entend à la fois dans votre témoignage et dans le précédent d'Emmanuel, on entend l'expertise de l'analyse du sentiment. Vous voyez ce que je veux dire, hein? C'est-à-dire que vous n'êtes pas resté bloqué par ce que vous viviez, mais vous avez essayé de le comprendre. Et je pense que les meilleurs experts sont ceux qui éprouvent justement. Hélène Fresnel, un conseil pour Sabine?
Effectivement, les techniques de respiration, quand on se sent envahi par ses émotions, ça peut tout à fait aider, la méditation, le yoga. Il y a aussi tout ce qui concerne l'art-thérapie. parce qu'en fait, il y a quand même une connexion, il y a une dimension, vraiment, une sensibilité à l'art chez les hypersensibles. On l'a entendu, là, il y a un rapport à la musique, il y a un rapport à la création, il y a une créativité souvent très développée chez les hypersensibles. Et puis, sinon, du point de vue des thérapies, pour moi, la gestalt-thérapie que pratique Cécile Guéret est particulièrement adaptée, en fait, pour identifier et se mettre en connexion avec ses émotions et apprendre à sympathiser avec elles.
Eh ben, on va donner le numéro, le 06 de Cécile Guéret. Cécile, comment est-ce qu'on pourrait définir la gestalt pour ceux qui nous écoutent ?
Ah, oh là 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 là, ça c'est une...
Alors, rapide, parce que vous avez une minute pour le faire.
Bah, justement, en gestalt, notamment, on travaille effectivement sur la manière d'être en relation avec l'autre, notre éprouvé dans le rapport à l'autre, à l'environnement. Et ce qui est important aussi, je trouve, dans ce que disait Camille, c'est que c'est vraiment de pouvoir expérimenter par rapport à l'hypersensibilité chacun les solutions qui nous conviennent. Alors pour elle par exemple, elle parlait de la méditation. Faut quand même, je mets juste un petit bémol, parce que la méditation pour les troubles anxieux, c'est pas recommandé, hein. Ça peut au contraire accentuer l'anxiété. Oui. Donc c'est se laisser sentir ce qui est bon pour soi. Ça peut être d'aller marcher en forêt, ça peut être d'aller à une expo, ça peut être d'aller nager, ça peut être... Mais c'est vraiment que chacun va trouver ce qui l'aide dans sa régulation émotionnelle à être au mieux, sachant aussi, une précision qui est importante, c'est que l'hypersensibilité, c'est aussi une question de contexte de vie. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans notre vie où on va se sentir extrêmement hypersensible, peut-être parce que plus fragile,
fatigue,
ou dans un environnement
des événements de vie.
Fatigué, moins accès à la nature, ou à un moment de vulnérabilité. Et puis d'autres moments dans notre vie, on va avoir plus accès à nos ressources, on va être plus tranquille, plus en lien avec les autres. Et donc finalement, on souffrira moins de cette hypersensibilité qui va même être faire partie de notre personnalité, mais pas du tout. Ça peut être quelque chose de tout à fait tranquille et pas problématique.
En tout cas, ce que j'entends, Camille, c'est cette idée, comme vous l'avez très bien dit, d'embrasser vos émotions, de laisser circuler les choses, en fait, hein.
Oui, tout à fait.
C'est comme un barrage.
Oui, enfin, après, j'essaie un peu plus de filtrer, mais comme disait Cécile, je pense que je suis dans une période aussi où je suis peut-être plus tranquille actuellement.
Ouais,
et que il y aura des périodes où ce sera peut-être plus compliqué, mais il faut accepter, en fait, ces vagues.
Enfin, moi, je veux pas dire, mais les bleus ont été éliminés hier. Hein. Enfin, je veux pas en rajouter, hein, Camille. Hein. Je vous remercie, c'était très éclairant de passer ce moment avec vous, Camille. Et puis bravo, c'est chouette de travailler dans le monde du livre.
Oui, tout
c'est
à fait.
C'est important. De...
Oui, vous avez raison.
Et c'est essentiel. Achetez des livres. Merci Camille, à bientôt.
Bonne journée.
À bientôt. À propos de livres, aimer c'est prendre le risque de la surprise, c'est aux éditions Albin Michel. Merci Cécile Guéret.
Merci
à vendredi pour la dernière d'en effet pour s'entendre. Merci.
Oh, je vais pleurer.
Ah non, bah et nous alors. Et nous. Merci Hélène Fresnel.
Merci à
pour
vous.
Toutes ces années où vous êtes venue nous voir.
Avec un grand
voilà,
plaisir.
Vous saluerez tous vos collègues de Psychologie
je
Magazine, voilà, partenaire de cette émission. Merci beaucoup Cécile Guéret. Et je voudrais m'adresser à Martine Clary de l'Homme, voilà, dans le département du Nord, qui va assister avec son fils à l'ultime concert d'Elton John. C'est vous qui avez gagné, justement, Martine. Vous aussi, vous pleurez ? Bah, vous avez raison. Voilà, une nouvelle chance de gagner, c'est dans les grosses têtes, dans un instant. Toujours Elton au 74 900, 75 centimes par SMS, 4 SMS max. Bonne chance à tous.